Radio Okapi. Écho des développements.
Bonjour et bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable des Radio Okapi consacré à la découverte des tourbières du bassin du Congo. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce magazine. Jean-Marc Matoua qui coordonne et supervise cette émission. Et Polydor Basunga, pour sa part, s'occupe de la prise des sons. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de cette émission. Et merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Plusieurs spécialistes en environnement soutiennent que la transformation des tourbières à des fins agricoles, pétrolières ou minières aurait des conséquences très lourdes sur l'humanité. Quel est le rôle que jouent les tourbières du bassin du Congo et pourquoi c'est important de protéger les tourbières du bassin du Congo? Des réponses à toutes ces questions, vous les aurez certainement au cours de ces numéros des Codes du développement qui débutent avec les témoignages de M. Dieu Bissalou, un ayant droit coutumier de la localité de Luonga, interviewé lors de l'exploration des tourbières situées dans le territoire d'Ingende à l'Équateur, muni de sa machette en main pour frayer les passages aux chercheurs et journalistes conviés à ses travaux de terrain. Ces jeunes, la vingtaine révolue, nous révèlent que c'est dans cette forêt marécageuse que la communauté locale pratique la pêche et fait la cueillette des ressources spontanées qu'offre la nature.
Nous pratiquons la pêche à l'aide des filets et des nasses dans cette forêt marécageuse. Nous coupons également dans cette forêt des lianes et des rotins qui servent à la construction des maisons. Nous capturons dans ces endroits l'herbier, des poissons que nous consommons dans nos ménages et nous vendons également nos produits de la pêche et de l'accueillette. Nous subirons bien à l'autre. En faisant sèche, les femmes viennent pratiquer la pêche en l'état de l'état. Nous pratiquons toujours la pêche, les filets et des nasses. Nous savons que cette forêt située dans une zone humide pourrait pouvoir déranger les poissons.
Nous remercions M. Dieu Bissalou, un ayant droit coutumier de la localité de Luonga située dans le territoire d'Ingende à l'Équateur, qui a accepté de témoigner au micro des Radio Okapi. Les tourbières, qu'est-ce que c'est? Les tourbières, par définition, sont des zones humides colonisées par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont permis la formation d'une zone humide sur base de la sédimentation et de la décomposition lente des branches et des feuilles mortes au bout de plusieurs années. Le professeur Corneille Wango, coordonnateur de l'expédition scientifique des tourbières dans les bassins du Congo, définit les tourbières comme étant une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa forte teneur en matière organique, pas des composés d'origine végétale.
Les tourbières sont des végétations qui se développent sur des forêts marécageuses, mais qui sont constituées de matières organiques partiellement décomposées et qui s'accumulent au fil du temps et qui peuvent constituer d'énormes couches qui vont jusqu'à des dizaines de mètres de profondeur et qui, à son sein, sur la partie exposés peuvent être soit des forêts ou bien des palmeraies ou même des végétations herbacées, mais qui se développent sous une condition anaérobique, donc sans oxygénation et en condition permanente d'eau, qui fait que les débris végétaux qui sont entassés dans le sol ne se décomposent pas et restent en partie matière organique.
Et vous parlez de la décomposition lente et progressive. Est-ce qu'on peut estimer les délais d'une décomposition pour que ça soit défini comme tourbière?
Bon, on ne sait pas exactement la durée de la décomposition, mais on sait au moins la durée de l'accumulation. Et on peut, jusqu'à les études qui sont menées jusqu'à présent, l'état de connaissance fait que pour un mètre de profondeur de tourbe est estimé à une accumulation d'environ 1000 ans. Donc si nous avons 10 mètres de profondeur, sera
une accumulation de 10 000 ans. Okay. Merci beaucoup pour ces détails. Alors, quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour déterminer que dans cette zone, il y a les tourbières?
Bien, nous commençons d'abord par une modélisation. Donc, nous savons que les tourbières ne peuvent se développer que dans des zones humides, donc qui sont en permanence gorgées d'eau. Et pour cela, pour bien le déterminer, ce ne sont pas toutes les zones humides ou les forêts marécageuses qui
sont
accumulent de la tourbière. Ici, j'aimerais bien souligner cet aspect parce que les gens croient que quand on parle de tourbière, immédiatement, ils pensent aux forêts marécageuses qui les entourent. Non, ce sont des zones humides, ce sont des forêts, des écosystèmes marécageuses, mais les tourbières sont des habitats spécifiques, des écosystèmes spécifiques au sein de ces zones humides ou de ces forêts marécageuses qui sont caractérisées par l'accumulation là des tourbières. Alors pour les définir ou les délimiter, nous passons d'abord par une prédiction par télédétection. Donc nous prenons les images satellitaires de la végétation, nous les combinons avec la topographie, nous combinons avec l'élévation, donc l'élévation, les réseaux hydrographiques, et puis nous pouvons alors définir les zones de probabilité d'accumulation de la tourbe. Et c'est sur ces zones-là que nous pouvons mener d'abord des sondages pour voir si effectivement il y a de la tourbe ou pas.
Les forêts du bassin du Congo sont soumises à des pressions croissantes qui pourraient à terme entraîner une forte dégradation et accroître la pauvreté de la population locale qui dépendent encore étroitement des ressources spontanées de la forêt. Ginka Jemba, membre de la Société Civile Nationale, consultant au groupe du travail Climat Raid Rénové, plateforme de la Société Civile Environnementale, soutient que l'exploitation abusive des ressources naturelles dans les tourbières peut impacter négativement sur les vécu quotidien des communautés locales.
Il y a des communautés, il y a des populations autochtones et d'autres populations qui vivent dans ces environs et qui... ce genre de travail peut impacter positivement ou négativement sur leur vie. Voilà l'intérêt que nous portons pour voir comment...
Positivement ou négativement, de quelle manière?
Dans tous les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit conserver, que la nature, que la communauté doit conserver, avec lesquelles ils dépendent forcément, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas intransiger quoi, par rapport à leur culture, par rapport à leur savoir endogène. Et d'une part, et d'autre part, ils doivent aussi bénéficier des efforts consentis pour la protection des forêts, de l'autre part. Là, c'est l'aspect positif. Donc, à un certain moment de cette expédition, il faudrait que nous rassurions que ces communautés se retrouvent de part et d'autre par rapport à leur sécurité sociale d'abord et traditionnelle, et par rapport à leur sécurité économique et culturelle.
Les tourbières du bassin du Congo ne sont pas encore surexploitées. Les prélèvements des ressources dans ces sites riches en biodiversité par les communautés locales n'a pas d'incidence négative sur le fonctionnement des tourbières, ajoute l'écologiste Corneille Ouango. C'est plutôt l'exploitation artisanale des bois d'œuvre par les communautés locales qui inquiète ces spécialistes.
Les tourbières du bassin du Congo sont en état quasi intact. Si je dis quasi intact, c'est presque intact parce que la végétation n'est pas trop entamée, mais il y a les communautés locales qui vivent dans ces milieux et qui exercent certaines activités de subsistance, d'extraction
de
ressources.
La cueillette, certains produits forestiers non lignés, ouais. La pêche.
La pêche. Mmh. Oui, je ne m'inquiéterai pas tellement de ce que vous citez, la cueillette de produits forestiers non lignés, la pêche, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'exploitation artisanale de bois d'œuvre et d'une certaine espèce qui est typique de ces forêts de tourbières, l'espèce Danielia pinaerti, qui est vraiment caractéristique et qui n'a que comme habitat préférentiel ou de croissance les tourbières. Et cette espèce est en train d'être presque conduite à l'extinction par une exploitation excessive alors qu'il n'a que comme habitat les tourbières.
Les tourbières du bassin du Congo méritent une protection intégrale selon l'ONG Greenpeace Afrique. L'affectation de ces sites pour l'exploitation pétrolière et minière constitue les principales menaces des tourbières du bassin du Congo. Les 145 000 km² de superficie qui régorgent les tourbières du bassin du Congo doivent être protégés selon Patient Mwamba, chargé des campagnes et forêts à l'ONG Greenpeace Afrique.
Pour Greenpeace, les tourbières sont d'une importance capitale parce que vous êtes sans ignorer que pour les bassins du Congo, le bassin du Congo régorge environ 145 000 km² de tourbières. C'est une superficie très importante et d'après les études, c'est environ 30 millions de tonnes de carbone qui sont emmagasinées. Ça veut dire que si ces tourbières sont détruites, la conséquence c'est que toutes ces gaz à effet de serre qui vont être libérés dans l'atmosphère contribueront à augmenter essentiellement les effets du changement climatique. Donc pour nous, le climat est très important et nous devons tout faire pour protéger le climat. Et Greenpeace est là pour effectivement plaider à ce que le tourbière du bassin du Congo soit effectivement protégé, qu'il n'y ait pas des activités qui vont dans le sens de le détruire. Parce que vous êtes sans ignorer que dans notre pays, il y a déjà des régions où les tourbières sont objets de destruction ou de projets de destruction. Vous avez dans le parc national, il y a des projets d'exploration pétrolière qui doivent se faire d'après le gouvernement. Et pas seulement en RDC, au Congo-Brazza également, le gouvernement pensent qu'ils peuvent faire la même chose. Et pour Greenpeace, c'est inacceptable que le gouvernement, qui sont censés protéger les tourbières, soit le premier personne à penser à leur destruction. Donc pour nous, nous pensons qu'il est très important de le protéger parce que ça va pour l'intérêt de tout le monde. C'est pas seulement l'intérêt de Greenpeace. Si le climat est détruit aujourd'hui, c'est pas seulement Greenpeace qui va subir, c'est toute la planète qui va également subir les conséquences du changement climatique.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment les magazines Éco du développement consacrés à la découverte des tourbières du bassin du Congo. Les tourbières jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Elles contribuent à la régulation du cycle de l'eau et les tourbières jouent également un rôle socioculturel important pour les communautés locales dont les activités sont fortement concentrées dans cette forêt marécageuse. La deuxième exposition scientifique se fait simultanément en RDC et au Congo-Brazzaville, ajoute l'écologiste Corneille Ouango. Nous allons suivre les explications sur le travail qui est fait sur terrain par les spécialistes.
Nous venons d'une deuxième expédition scientifique des explorations sur les végétations des tourbières en République démocratique du Congo et dans la cuvette centrale en général, et toujours dans la province de l'Équateur. Et si je dis dans la cuvette centrale, parce que nous sommes en train de mener, avec nos collègues de l'Université de Leeds, nous sommes en train de mener nos études parallèlement dans les deux pays, dans les deux Congo. Donc pendant que moi, j'étais avec une partie de notre équipe dans la province de l'Équateur, chez nous, au Congo-Kinshasa, une autre équipe était aussi avec les collègues du Congo-Brazzaville, toujours dans la même vallée, mais de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Et pour ce qui nous concerne, nous avons exploré cette fois-ci une bonne partie du territoire de Ingende, suivi du reste de ce que nous avions laissé de la première expédition de territoire de Bolomba. Cela simplement parce qu'on voulait avoir les deux rivières qui sont adjacentes l'une de l'autre, donc la rivière Rouki et la rivière Momboyo et Ikelemba. Donc nous venons précisément d'explorer le long de la rivière Rouki et qui est à cheval, qui est la limite géographique des deux territoires, Ingende et Bolomba, et nous avons exploré de part et d'autre. Nous avons commencé par la forêt d'Mpeka, au sud-ouest de Bolomba, où nous avons campé près de un mois, et là, nous avons relié presque la rivière Rouki de la rivière Ikelemba, donc qui, par prédiction aux images satellitaires, serait distante de 20 km. Alors, il nous fallait aller jusqu'au point centre de ces deux rivières pour voir si la profondeur des tourbes ou l'accumulation de la tourbe serait de même ou serait le point le plus profond entre les deux rivières. Et cela était important pour nous parce que nous pensons que entre les rivières chez nous au Congo, donc la formation des tourbières serait un peu différente de la formation des tourbières dans l'autre Congo, bien que ça soit dans un même bloc. Et cela se justifiait, donc les tourbières qui sont chez nous, à cause de beaucoup de grands cours d'eau, seraient formées par l'érosion ou la migration des eaux, et ce qui serait similaire à ce qu'on a trouvé dans les tourbières des forêts du bassin de l'Amazonie, donc ce qui relierait le rythme, le processus de formation géologique à travers les deux grands bassins forestiers mondiaux.
Nous devons souligner que les tourbières du bassin du Congo ne sont pas à l'abri des différents programmes d'exploitation pétrolière au Congo-Brazzaville et en RDC. Cela aura des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement des écosystèmes des tourbières du bassin du Congo. Le projet du transfert de l'eau de la rivière Ubangi dans le lac Tchad aura aussi des incidences négatives sur le fonctionnement de ces tourbières, renchérit l'écologiste Corneille Iwango.
Je crois que le pays devra aussi faire allusion d'abord à ces scientifiques. Il doit les consulter même s'il y a de grandes questions, de décisions politiques, mais il doit d'abord faire de sorte qu'il rassemble ces scientifiques à la matière pour avoir des éléments de réponse que de penser que ce sont des questions politiques qu'on doit résoudre politiquement. Les conséquences sont fâcheuses, les conséquences sont écologiques et ils sont fâcheuses contre qui ? Contre nous d'abord, la population congolaise. Est-ce que le monde entier aimerait que les Congolais vivent ou nous devons mourir au détriment par le bon sens des autres ? Donc, imagine toute la superficie de la cuvette centrale. C'est une zone assez riche en poissons qui nourrit presque les deux pays ou plus de trois pays en Afrique centrale. Et imagine toute cette
énorme population. Donc il y a la RDC, le Congo-Brazzaville et la RCA.
La RCA, le Cameroun et le Gabon. Tous nous dépendons de ces eaux-là, de cette cuvette centrale. Mais si on doit les transférer, les conséquences sont fâcheuses d'abord pour les peuples qui dépendent de ces bassins hydrographiques. Est-ce qu'on a pesé les conséquences pour sauver le peuple et les frères, amis des autres pays ? Donc, et on nous parle d'un côté de sauvegarder la forêt, mais les tourbières sont des végétations forestières. Sans eau, donc cette forêt va disparaître. Et sans ces tourbières, donc le fleuve Congo est voué à un dessèchement. Déjà, l'Ubangi, donc, qui fait question de transfert d'eau, il est frappé par un ensablement excessif. Et de l'autre côté, la Lukeni aussi, frappée par cet ensablement. Donc, qu'est-ce que l'on voudrait ? Je crois qu'il y a des solutions qu'on peut trouver ailleurs que juste ce transfert de l'eau. Et aussi, on parle du grand barrage Inga. On veut avoir un barrage Inga 3 ou 4, je sais encore. Mais ce barrage ne peut être construit que parce qu'il y a un potentiel hydrographique, hydraulique. Mais si on fait les transferts, est-ce qu'on a fait des études en amont pour savoir les conséquences ? Donc, l'ensablement va faire que les turbines du barrage d'Inga, même le débit, va être affecté et que ça ne va pas donner les résultats, les mégawatts escomptés pour être les puissants barrages qui, dont tous les pays en dépendent ou veulent en dépendre.
Ben, ce sont aussi des sites, disons-les, professeurs riches en biocarburants, en pétrole. Est-ce que l'exploitation pétrolière ne va pas aussi impacter négativement sur les tourbières, professeur?
Nécessairement, vous avez déjà la réponse et je peux vous donner l'exemple. Voyez le cas des mangroves. Le Congo a créé le parc national des mangroves dans l'embouchure du fleuve Congo. Quel est l'état des lieux de ce parc-là? Il est presque en voie de disparition. Les catastrophes sont énormes. Vous voyez le berge, les belles plages de l'embouchure de cette mangrove.
Oui.
Donc, où les tortues marines qui sont entièrement protégées venaient se reproduire, n'y viennent même plus à cause de la marée noire provoquée par l'exploitation et la production de pétrole. Là, personne n'en parle. Et personne ne cherchent les causes de la dégradation. Donc, les mangroves sont aussi des tourbières et ils sont en train de perdre le pouvoir d'accumulation de la tourbe à cause de la marée noire et à cause de la toxicité provoquée par l'exploitation pétrolière. Je sais bien que, oui, toutes ces zones de tourbières de notre Congo, en passant par les mines d'ombre comme dans l'autre Congo, il n'y a pas 48 heures, le président Sassou Nguesso a déclaré que le Congo devra exploiter les mines de pétrole dans la forêt de Ngoki, là où il y a malgré les tourbières. Ouais, c'est une bonne chose, mais nous devons faire un choix. Et un choix qui se rallierait au principe de développement durable.
Durable, oui.
Donc, est-ce que nous avons des moyens? Ces gens, quand ils viennent exploiter, ils voient leurs intérêts. Mais si le pétrole est chez nous, mais voyez le coût que quand le pétrole est rendu chez nous. Mais le bas peuple, il a même difficile à s'en approprier. Donc, je veux bien, c'est une ressource que nous devons nous développer, mais est-ce que c'est le seul moyen, c'est la seule ressource qui devra constituer le développement de nos pays? Je crois que nous avons des potentialités énormes. Le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un pays à vocation agricole. Pourquoi nous ne pouvons pas exploiter ces voies agricoles pour développer notre pays? Et il n'y a pas que le pétrole comme minerai, il y a les autres minerais. Qu'en faisons-nous de ces minerais quand nous les exploitons pour développer
les pays?
Qu'est-ce
qu'on a fait déjà, oui, pour développer les pays?
Donc, et dans ces zones, il n'y a pas que c'est le pétrole. Le Congo a ratifié aussi certaines conventions internationales de la protection de la biodiversité. Il y a dans le parc de la Salonga, par exemple, les bonobos, qui sont une espèce entièrement endémique de ces forêts de la cuvette centrale. Elle est en train de partir. Et il en va de même des gorilles de montagne dans le parc de Virunga. Mais on ne prend pas de dispositions, on ne prend pas compte de toutes ces espèces qui ont droit aussi à la vie. Et on croit que s'il faut alimenter en pétrole le monde entier, nous devons faire cette générosité qui est suicidaire à nous-mêmes.
Les changements climatiques est devenu l'un des défis environnementaux les plus importants auxquels est confrontée la planète Terre. Les forêts du bassin du Congo sont soumises à des pressions croissantes qui pourraient à terme affecter les fonctionnements des tourbières du bassin du Congo et priver en même temps la population locale des ressources issues de ces forêts marécageuses, affirme le chef des travaux Joseph Kanyamakabu, chercheur dans le domaine de la botanique forestière.
Une fois qu'on détruit ces écosystèmes, il y aura une libération énorme des CO2 dans l'atmosphère et ce qui peut entraîner des changements énorme en termes de climat, température, et les conséquences sont toujours dramatiques. On a essayé de comprendre les tsunamis qui sont arrivés en Asie et on ne veut plus revenir à ça. Ça, c'est le premier aspect en termes de changement. Mais d'autre part, on risque de détruire les écosystèmes qui servent de refuge des poissons. Et vous devez savoir que cette population d'ici ne vit que de cette activité, alors ce qui veut dire qu'on risque de chasser ces peuples de sa terre à cause des exploitations de ces tourbières. Troisième lieu, ce qu'on peut ajouter, c'est que en le préservant, on peut gagner des prix carbone. C'est-à-dire, tel que nous faisons, nous évaluons la quantité de carbone séquestré par la forêt, la préservation par la population locale. Et ces données, le gouvernement peut s'en servir pour essayer de faire des lobbying et comment obtenir des fonds pour le paiement des services écosystémiques.
Est-ce que les pratiques sociales, la population qui va collecter les aliments, les herbes, les poissons et certaines espèces animales, il n'y a pas une certaine pression qui est exercée localement à première vue?
Ah oui, bon, en tout cas, les pratiques de la population locale sont préservatives, c'est qu'on peut dire. Parce que vous-même, vous constatez la profondeur, la qualité de la forêt. Vous constatez même que c'est comme si personne n'est entré avec cette expédition. Donc, pour frayer, ne serait-ce que les chemins, c'est un problème.
Oui, moi, trébuché plusieurs fois, donc dans le parcours,
oui.
C'est vraiment difficile, l'accès il est très difficile.
Oui, justement, c'est pour dire que tout ce qu'ils font comme activité, c'est pour la survie, la subsistance. Et l'activité principale, c'est la pêche. Peut-être qu'ils peuvent chercher des bois morts pour faire un peu de feu, faire la marmite le soir, mais ça n'a rien à voir avec la destruction de la forêt. Au contraire, c'est leur pratique, protège, et on voit que depuis les ancêtres, la forêt est toujours là. Vous voyez l'étendue des arbres, vous voyez la hauteur, vous voyez la grosseur. Donc, ça montre qu'ils sont conservateurs, et c'est ce que nous voulons, à ce que nous puissions les associer encore, le faire comprendre qu'il faut continuer dans ce sens, au lieu de pouvoir passer à des exploitations abusives.
Le gouvernement congolais doit faire un effort pour protéger les tourbières du bassin du Congo, considérées comme des niches écologiques riches en biodiversité. La protection intégrale des tourbières du bassin du Congo permettra aussi au gouvernement congolais de négocier en position de force dans les discussions internationales de paiement des services écosystémiques, mais il faudra associer les experts dans les discussions sur les thématiques concernant ces domaines. Ce qui n'est souvent pas le cas, d'après le professeur Corneille Ouango, nous rappelons qu'il est le coordonnateur de l'expédition scientifique des tourbières du bassin du Congo.
Le gouvernement congolais nous déçoit un peu. Je m'excuse d'en parler parce que nous avons commencé les études des tourbières et le gouvernement a été étroitement associé, mais il est écœurant parfois de voir que quand ils vont pour des grandes conférences scientifiques, ils privilégient les politiques que d'amener les scientifiques qui sont même en train de mener les études. Je ne dis pas que ça doit être nécessairement moi, mais le gouvernement doit faire confiance à ces scientifiques qui ont la matière et qui peuvent l'aider à donner des éléments de réponse que les politiques n'ont pas. Je vous dis concrètement, j'étais étonné de voir que le gouvernement congolais ils se sont retrouvés avec l'autre Congo en Indonésie pour créer l'Institut international de gestion des tourbières tropicales. Mais aucun scientifique congolais n'y a été associé et depuis là, on est revenu. C'est une institution de recherche scientifique pour les tourbières. Mais notre gouvernement est en train de dormir. Et demain, il y aura encore la COP21 ou la COP25. On va chercher des éléments pour aller parler des tourbières. Est-ce qu'on va parler de politique ou... Je pense que à ce stade où nous sommes, il n'est pas question de politique des tourbières. Il y a question d'abord de comprendre pour mieux protéger, pour mieux vendre. Nous devons connaître le potentiel.
Le potentiel et son régime en eau, le mode de fonctionnement...
Merci beaucoup. Donc, le fonctionnement de cet écosystème tourbière en termes d'eau, parce que c'est de l'eau que nous dépendons. Donc, en termes d'eau, en termes de séquestration de carbone, en termes de fonctionnement, que nous devions comprendre. Donc, nous devons donner à la face du monde que contiennent nos tourbières. Ce n'est pas la vaste étendue qui importe. Ces 146 000 km², ils contiennent quoi? Et ils sont pour les deux pays. Alors, de notre part, au Congo, de la RDC, combien de quantités de carbone sont contenues dans notre partie de forêt de tourbières? Et c'est ça qui va constituer la base de discussion. Donc, il n'y a pas que les tourbières, parce qu'on voit seulement la tourbe, mais il y a ces forêts. Ces forêts érigées séquestrent aussi de carbone. C'est comme si ça n'intéresse pas, on ne voit que la tourbe est au sol. Alors que les forêts de tourbières jouent un rôle double. C'est le stockage et l'emmagasinement de carbone par les arbres qui sont encore vivants. Donc, nous pensons que la phase actuelle où nous sommes, c'est d'abord les expéditions, la connaissance scientifique de ces potentiels des écosystèmes que nous devons connaître et porter alors comme élément de réponse ou de négociation dans le forat, qui est de privilégier d'abord les aspects politiques ou de conservation ou de stratégie sans connaître ce que nous avons.
C'est parce que quelques propositions du professeur Corneille Ouango qui prend fin Écho du développement consacré à la découverte des tourbières du bassin du Congo. Tati Mafoukou, c'est moi qui ai présenté ce magazine. Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise cette émission. Polydor Bastunga s'est occupé de la prise de son. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Écho du développement. À bientôt.